Donc, il y a une loi spirituelle qui est celle de donner et de recevoir. Elle ne fonctionne pas seulement dans les finances, elle fonctionne aussi dans la vie. Et certes, nous sommes venus délivrer quelque chose, nous sommes venus donner quelque chose, ce que le Seigneur avait mis en nous, mais ne croyez pas que ça a été seulement dans une direction. Non seulement il y avait quelque chose en nous que vous aviez besoin en vous, mais il y a quelque chose en vous que nous avions besoin en nous. Et ça, c'est le corps de Christ. Et ça, c'est la communion fraternelle. Lorsqu'il y a cette édification mutuelle qui est là, et chaque fois que je visite votre communauté, j'expérimente l'amour fraternel à une dimension que j'ai peu vue ailleurs. Je ne vous le dis pas pour vous faire plaisir, je le dis parce que je suis sincère et parce que c'est honnête. Et je pense que cette force intérieure maintenant, et c'était vraiment le message de ce week-end, elle est appelée à sortir et à bénir le monde qui vous entoure. Ça va ? Finissons en beauté avec un message prophétique. Alors, hier, j'ai exercé dans le don de prophétie, mais ce matin, c'est le message lui-même qui sera prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire, un message prophétique ? À un moment, Jésus reproche aux pharisiens et aux sadducéens, il leur dit... Vous savez lire les signes du ciel. Vous savez que quand c'est rouge le soir, le lendemain, la journée sera belle. Vous savez, ceux qui naviguent sur le Léman, vous le savez aussi. Et vous savez que quand c'est rouge le matin, il faut faire attention, il faut veiller parce que l'orage risque d'arriver. Et Jésus leur dit, vous savez discerner les signes du ciel, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Et la façon dont le Seigneur est en train de m'utiliser dans le ministère, c'est non seulement de me donner une spécificité dans le leadership, mais il est aussi en train de m'aiguiller dans le ministère prophétique. Et j'aimerais vous donner un message ce matin qui va nous aider, en tant que corps de Christ, à comprendre les signes des temps. Ça vous intéresse ? On va aller dans mon épître préférée, c'est l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, et là je vais lire trois versets du 25 au 27, et après je vais vous annoncer de quoi on parle. Mais j'en ai déjà donné quelques bribes hier soir. Éphésiens 5, s'il vous plaît, versets 25 à 27. 25 à 27. Éphésiens 5. Et c'est ça aussi le but du ministère prophétique, c'est de nous aider à comprendre les temps que nous vivons. Je fais la lecture, Éphésiens 5, 25, Marie, parole pour les maris, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Bon, Philippe, t'as encore du boulot. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Tout le monde dit Église glorieuse. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. J'aimerais vous parler ce matin sur le sujet suivant. Et c'est un message prophétique. L'Église glorieuse arrive. Encore une fois, l'Église glorieuse arrive. Vous voyez que ce n'est pas moi qui parle de l'Église glorieuse, c'est Paul. Il en parle au verset 27. Remontez au verset 26, il nous parle de l'importance de la parole de Dieu qui lave et qui sanctifie. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Église contemporaine, et ceux qui sont diplômés de Réma ou étudiants de Réma, vous le savez mieux que quiconque, c'est que l'Église de Jésus-Christ a vécu ce qu'on appelle le mouvement de la parole. Ou ce qu'on a appelé aussi le mouvement de la foi, si vous voulez, où on a retrouvé cette intégrité des Écritures qui vient déjà de la Réforme, mais aussi cette idée qu'on peut s'appuyer sur les promesses de Dieu et mettre notre foi sur les promesses de Dieu pour qu'elles s'accomplissent dans nos vies. Ça, c'était le verset 26. Mais après le mouvement de la parole, qui était pendant les années 60, 70, on va dire, qui a continué jusqu'à nos jours, il y a le verset 27. Et après le mouvement de la parole, le mouvement de la foi, je crois de tout mon cœur que c'est le mouvement de l'Église glorieuse. Et je vais défendre ce matin l'idée, à l'aide des Écritures, Ça va être mon postulat ce matin. Écoutez bien. À chaque fois que Dieu termine un temple. Oh, j'ai déjà prêché. Il le remplit de sa gloire. Encore une fois. À chaque fois que Dieu termine un temple, il le remplit de sa gloire. La première habitation que Dieu a construite, c'était le tabernacle. Vrai ou pas vrai? Et je vais faire le lien avec ce qu'on a vu hier après-midi, parce que nous sommes toujours animés de cet esprit-là, et Anne nous a mis dans les starting blocks ce matin. La première habitation de Dieu, c'était le tabernacle. Et ce tabernacle n'a pas été construit n'importe comment, il a été construit selon un modèle, selon un plan, selon un patron détaillé. C'était précis, vous êtes d'accord? Et je vais vous montrer que lorsque le peuple de Dieu construit quelque chose à l'aide du plan ou du modèle que Dieu a donné, on commence avec le plan et on finit dans la gloire. On commence avec le plan, on finit dans la gloire. On commence avec le plan de Dieu et on finit dans la gloire. Premièrement, la première habitation, c'était le tabernacle. Moïse a suivi le plan. Certains, vous savez déjà où je vais. Il a suivi la trame que Dieu lui avait donnée avec exactitude. Et maintenant, je suis en Exode chapitre 40, s'il vous plaît. Et nous allons voir de quelle manière Dieu a terminé cette première habitation, l'habitation mobile, l'habitation du désert, le tabernacle. Je suis en Exode 40, verset 34. Alors la nuée couvrit... Oui, là, il faut prendre une voix de prédication. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et c'est quoi la suite? Oh, on a commencé avec le plan et là on va finir avec la gloire. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus. Et là, est-ce que vous savez que l'Esprit de Dieu est parmi nous ce matin? Est-ce que vous le sentez? Et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Ils ont commencé avec le plan de Dieu. Et vu qu'ils ont suivi le plan de Dieu pour cette première habitation-là, Dieu, quand c'était l'heure de terminer cette construction dans le désert, il l'a rempli de sa gloire. Mais ça, c'était quand le peuple de Dieu était nomade. Ce n'était pas quand le peuple de Dieu est devenu sédentaire. Le tabernacle a été révolu. Et c'était l'heure de construire un temple dans la ville de Jérusalem. Et si vous étiez là hier après-midi, je vous ai dit que David, il avait reçu un plan. Il avait reçu un modèle. On n'a pas construit le premier temple avec du hasard ou au pifomètre, comme on dit chez nous. Il y avait une trame. Il y avait une façon de faire. Je ne vais pas vous redonner le verset, mais ce qui m'intéresse ce matin, ils ont commencé le temple. Maintenant, je suis au temple, le premier temple. Il a commencé avec les instructions de Dieu. Est-ce qu'on peut aller voir comment Dieu a terminé ce temple? Qu'est-ce que ça passe vite quand on s'amuse? Deux Chroniques, chapitre 5. Ça va être la dédicace du premier temple. Et l'arche de l'Alliance va être déposée dans le Saint des Saints. Et les sacrificateurs vont essayer de mener le service. Les chantres vont essayer de chanter. Les trompettistes vont essayer de jouer. Mais au bout d'un moment, ils se sont retrouvés tous par terre. Parce que c'était la fin de la construction du temple. C'était le point d'orgue de la construction du temple. Et quand Dieu finit un temple, j'ai dit, il le remplit de sa gloire. C'était le cas avec le tabernacle. Et maintenant, c'est le cas avec le premier temple. Ils ont suivi, de la même manière que le tabernacle, ils ont suivi le plan de Dieu au début. Et vu qu'ils ont suivi le plan de Dieu au début, Dieu peut le remplir de sa gloire à la fin. Le temple, ils ont construit selon le plan de Dieu, ils ont reçu les instructions de Dieu, ils ont reçu la vision de Dieu, ils ont reçu le plan de Dieu, ils ont reçu le cœur de Dieu. Et vu qu'ils ont fait les choses selon le cœur de Dieu et selon son intention, il va le remplir de sa gloire au terme de la construction du temple. 2 Chroniques chapitre 5. Je vais lire juste le verset 14. Parce que finalement, l'idée principale, vous l'avez déjà comprise. Je suis juste en train de vous la démontrer dans les Écritures. C'est la fin du temple. Certaines fois, quand vous construisez votre maison, vous allez faire une crémaillère, vous allez faire une fête, vous allez marquer le coup. Ou quand une église a son propre bâtiment, on va faire une dédicace de ce bâtiment, on va le consacrer à Dieu. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire là. Et lorsqu'ils ont fait un service pour finir ce temple, quelque chose s'est passé. Verset 14 de 2 Chroniques 5. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. La nuée, c'est la présence de Dieu qui est reposée. Là. Vous voyez qu'on parlait déjà de nuée dans le désert. Et maintenant, on ne parle plus d'une construction mobile, on parle d'une construction immobile. Et la présence de Dieu était tellement forte, était tellement... Papa, qu'est-ce que la gloire de Dieu ? C'est lorsque la présence de Dieu, elle est manifestée. Ou lorsque la présence de Dieu, elle est manifeste. Elle est palpable. Et là, elle était tellement palpable qu'ils ont tous versé. Par terre. Vous avez déjà vu des gens par terre ? Il y en aura peut-être quelques-uns tout à l'heure. À cause de la nuée. Car, vous êtes tous là ? J'aimerais bien que vous le puissiez le voir dans votre Bible. Ce n'est pas Philippe Boulanger qui invente. C'est dans votre Bible. Car à la fin de la construction de ce temple, la gloire, tout le monde dit la gloire, de l'Éternel remplissait la maison. Quelque chose me dit que quand Dieu finit une construction ou quand Dieu finit un temple, il le remplit de sa gloire. Mais nous savons que ce premier temple n'est pas resté debout éternellement. Il a été détruit, ce premier temple. Si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir voir le temple de Salomon ou quelques ruines. Mais ce temple-là, vous allez aujourd'hui à Jérusalem, vous ne pourrez pas le voir avec vos propres yeux. Et là où il y avait le temple, nous on l'appelle ça l'esplanade du temple, mais les médias vont vous dire que c'est l'esplanade des mosquées. Et il y a deux mosquées là où il y avait le temple. Le dôme du rocher, cette espèce de coupole dorée, et la mosquée d'El-Aqsa, Aqsa, qui sont là. Le peuple de Dieu est emmené captif par les Babyloniens. Et au bout d'un moment, il y a Cyrus qui va écrire un édit qui va dire « On va permettre au peuple hébreu de rentrer dans leur ville. Et ils vont pouvoir reconstruire. » Je ne vais pas dire un second temple, je veux dire un deuxième temple. Et ils ont eu la permission de construire un deuxième temple. Alors, pour ceux qui ont une affinité avec l'architecture comme Francis, ce deuxième temple, qu'on n'appelait plus le temple de Salomon, mais le temple de Zorobabel, d'un point de vue architectural, Francis, ce deuxième temple était moins impressionnant que le premier. Il était plus petit. Il était plus modeste d'un point de vue physique. Mais pourtant, le prophète Agée nous dit que, est-ce qu'on peut aller dans Agée ? Vous êtes en train de me suivre ou vous pensez que je vais dans les pâquerettes tout seul ? Vous êtes toujours là avec moi ? Est-ce qu'on peut aller en Agée chapitre 2, verset, s'il vous plaît ? Chapitre 2, j'ai dit, versets 7 à 9. Et le prophète nous dit, l'oracle de Dieu nous dit, Agée, de la part de Dieu, je suis en Agée 2, 7, j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Oh oh, on parle du deuxième temple ici. Agée, c'était un prophète lors du deuxième temple qui a encouragé la roc. À un moment, ce deuxième temple, il a été construit, mais la construction s'est arrêtée. Et il a fallu l'impulsion des prophètes pour que la reconstruction reprenne. Et lorsque les prophètes donnent l'impulsion pour la reconstruction du temple, Agée va dire par, ou Dieu va dire par l'intermédiaire d'un, je remplirai de quoi ? De quoi ? De quoi ? Là, ça fait déjà la troisième habitation dont on parle. On a déjà parlé du tabernacle. On a déjà parlé du premier temple. Et là, on parle du deuxième temple qui nous dit, Dieu dit, je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Là, oulala, là, 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 là. Même si le deuxième temple était plus petit, plus modeste d'un point de vue architectural, le prophète nous dit que la gloire de cette dernière maison, la gloire de ce deuxième temple, elle sera plus grande. Il y aura plus de gloire dans ce deuxième temple que dans le premier temple. Mm-hmm. Que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Et je me suis posé la question. Sachant que le deuxième temple était moins impressionnant que le premier temple, pourquoi le prophète nous dit que le deuxième temple sera plus glorieux ou que la gloire de Dieu sera plus grande dans ce deuxième temple que dans le premier temple? C'est une bonne question à se poser. S'il était plus petit, pourquoi il serait plus glorieux? Ce deuxième temple a vécu jusqu'en 70 de notre ère. Il a été détruit par les Romains. Si vous allez aujourd'hui à Jérusalem, le temple de Zorobabel n'est plus là. Il a été détruit au premier siècle de notre ère, après Jésus-Christ, en l'an 70 par les Romains. Le premier temple a été détruit par les Babyloniens, le deuxième temple a été détruit par les Romains. Mais s'il a été détruit en l'an 70, ça veut dire que ce temple était encore sur ses pieds lorsque le Seigneur était sur terre. Et pourquoi ce deuxième temple était plus glorieux que le premier ? Parce que Jésus, qui est la gloire de Dieu, qui est l'empreinte de sa gloire, il est entré dans ce temple. Non seulement le Seigneur Jésus est entré en chair et en os dans ce temple, et la Bible nous dit dans Jean chapitre 1 et dans Hébreux chapitre 1 que Jésus est la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il nous dit que c'est dans ce lieu-là, dans ce deuxième temple-là, que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Parce que quand le Seigneur est allé à la croix de Golgotha, le voile qui était dans le temple s'est déchiré. Et le châtiment qui est tombé sur lui nous a donné la paix avec Dieu. Ce deuxième temple était plus glorieux que le premier parce que le chemin vers le Père a été ouvert. Et le rideau qui était dans ce deuxième temple, il a été déchiré. J'ai lu récemment que vous pouviez mettre deux bœufs, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et qu'ils devaient tirer chacun de la côte. Ils n'auraient pas pu déchirer ce rideau. Ce deuxième temple était plus glorieux parce que le Seigneur Jésus est entré dedans. Mais quand il allait à la croix, le rideau qui séparait le Saint des Saints des Saints s'est déchiré et une route nouvelle a été ouverte pour que l'on puisse, pasteur, s'approcher de Dieu et être secouru dans nos besoins. Et le trône de Dieu n'était plus un trône de jugement. Il est devenu un trône de grâce et de miséricorde. Ça, c'est le deuxième temple. Vous allez aujourd'hui à Jérusalem, il n'est plus là. Mais je n'ai pas dit second temple, j'ai dit deuxième. Je vous ai dit que ça allait être prophétique, voire eschatologique. Ézéchiel, chapitre 40. À partir du chapitre 40, Ézéchiel voit un quatrième temple. Le temple qui sera sur la terre pendant le millénium, pendant le règne millénaire de Christ. Lorsque Jésus va revenir poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Il y aura un quatrième temple. Mais certains pensent, et je pense qu'ils ont raison, que pendant les 7 années de tribulation qui précèdent le retour du Seigneur, il y aura un troisième temple. Et si vous allez aujourd'hui en Israël, vous allez voir que le peuple juif est en train de préparer tous les ustensiles parce qu'il pense qu'un troisième temple va être construit bientôt. Ça, c'est les habitations de Dieu. Et quand ça sera le temple d'Ézéchiel 40, ça sera un temple glorieux pendant 1000 ans. Mais maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et j'ai dit que quand Dieu commence quelque chose et que c'est son plan, c'est selon sa trame. Comment on appelle, Francis, quand un architecte lui dessine? On l'appelle un plan, tout simplement, ou une coupe, une élévation. À chaque fois qu'ils ont suivi la coupe ou une élévation, qui était celle de Dieu, Dieu l'a rempli de sa gloire. Mais maintenant, j'arrive à ma conclusion. Mais je vais vous faire réfléchir un petit peu. Le temple de la nouvelle alliance. Plus fort. Le temple de la nouvelle alliance. Est-ce que c'est le spa commercial hôtel ou je ne sais même pas comment il s'appelle? Est-ce que c'est ça le temple de la nouvelle alliance? Est-ce que c'est la paroisse Donnet, là où elle est localisée, qui est le temple de la Nouvelle Alliance? Alors ma question est la suivante. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Alors ma question est la suivante. Si à chaque fois que Dieu termine un temple, il le remplit de sa gloire, ma question est la suivante. Quel est le temple que Dieu va remplir de sa gloire? Certains ont compris, certains n'ont pas encore compris. Si nous sommes le temple de la nouvelle alliance, si l'Église est le temple de la nouvelle alliance, et Paul nous parle d'une église glorieuse. Parce que Paul connaissait la loi. Paul savait que quand Dieu finissait un temple, il allait le remplir de sa gloire. Ce que Paul nous dit en Éphésiens 5, 27, c'est qu'avant que l'ère de l'église ne s'achève, avant que l'ère de la grâce ne se termine, avant que Jésus vienne rechercher son église, il va y avoir une phase glorieuse pour le temple de la Nouvelle Alliance qui est l'Église de Jésus-Christ et c'est vous qu'il veut remplir de sa gloire. L'Église du livre des Actes, c'est l'Église de la première saison. L'Église glorieuse, c'est l'Église de l'arrière-saison. Dieu a commencé l'Église avec signes, prodiges, miracles et puissances. Je peux en mettre ma main à couper, qu'il va terminer son Église avec signes, prodiges, miracles, puissances surnaturelles et gloire. Et ce que nous a dit Agé, je crois que c'est aussi révélateur pour le temps de l'Église. Que l'Église glorieuse. Je sais qu'on regarde tout le temps le livre des Actes et c'est notre trame pour l'Église. On convoite le livre des Actes, on se dit, mais si seulement on pouvait vivre le livre des Actes aujourd'hui, si seulement je pouvais être comme Pierre et mon ombre passe et les gens guérissent, si seulement l'espace de 2 minutes, de 35 secondes, s'il te plaît, octroie-moi cette grâce-là. Mais je crois que la gloire de l'arrière-saison, je crois que ce que Dieu veut faire, et je ne parle pas seulement à Genève, en Suisse, je parle ici de l'Église glorieuse à l'échelon mondial. Je crois que le livre des Actes va même nous envier. Parce que quand Dieu termine un temple, il le remplit de sa gloire. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai communiqué là? Et est-ce que vous voyez le lien avec ce que j'ai dit hier? Hier, je vous ai parlé de modèles, de plans, de trames, d'élévation, de coupe. Ils ont suivi la trame selon Dieu pour le tabernacle. Dieu l'a terminé dans la gloire. Ils ont suivi la trame, l'élévation, la coupe, le patron pour le temple. Dieu l'a terminé dans la gloire. Et hier, on s'est posé la question, si Dieu a donné un plan pour le tabernacle, si Dieu a donné une trame pour le temple, existe-t-il une trame pour l'Église? Et je vous ai donné mon opinion, vous n'êtes pas obligé de la suivre, mais je crois que Actes 1-8 est le plan de Dieu pour chaque Église. Et ça va être ma conclusion, chers amis donnés. Ça, malheureusement, c'est le constat dans beaucoup d'églises locales, où ça tourne en rond. Mais la trame que Jésus a donnée à son Église, il est le chef de l'Église. C'est qu'on soit non seulement une communauté locale, mais qu'on s'intéresse aux choses de notre ville, qu'on s'intéresse aux choses de notre région et qu'on s'intéresse à ce qui se passe jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ma conclusion du week-end. Écoutez bien. Si nous suivons la trame que Jésus nous a donnée pour son Église, si nous suivons le modèle qu'il nous a donné pour son Église, si vous devenez une Église locale qui a une mission mondiale, si vous deviez une Église qui commence à s'ouvrir davantage vers l'extérieur et commencez à prendre l'amour qui est si fort en vous et parmi vous et vous commencez à l'amener dans le monde qui vous entoure, à Aulnay, dans la ville de Genève, dans la Suisse romande et même plus loin. Si vous suivez la trame que Jésus nous a donnée pour son Église, j'aimerais dire à son pasteur et à l'assemblée qu'il représente que si vous suivez le modèle de Dieu pour son Église, croyez et vous verrez la gloire de Dieu. C'est ma conclusion. Ce week-end, il va falloir le décanter. Mais je pense qu'il y a un message redondant depuis hier qui revient. Ce que vous avez cultivé à l'intérieur, Dieu aimerait ouvrir une brèche pour que ça sorte à l'extérieur. Je ne sais pas comment vous allez le faire pratiquement, mais c'est le message. Que l'intimité intérieure de la paroisse devienne une influence extérieure. Et je vous promets que vous allez avoir vos propres idées, les directions qui viennent du pasteur, vous allez avoir votre propre ADN, pas besoin de copier ce qui se fait ailleurs. Mais je vous encourage vraiment à vous inspirer du modèle de Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque on suit le plan, la trame, la coupe, l'élévation que Dieu a donnée pour son tabernacle et pour son temple, ils ont expérimenté la gloire de Dieu. Et pourquoi la paroisse d'Aulnay Genève ne pourrait pas expérimenter la gloire de Dieu? Parce qu'elle applique le modèle de la tête de l'Église. Et je peux vous dire que quand vous allez commencer à gagner des gens pour le Seigneur, il va y avoir de l'enthousiasme et de l'excitation dans la paroisse. Lorsque vous allez commencer à voir de nouvelles personnes gagner, lorsque vous allez commencer à voir que vos finances vont plus loin que l'Église, bien sûr que l'Église a des besoins, mais que vous allez commencer à être une bénédiction pour la ville, commencer à les alors peut-être vous le faites déjà, soutenir des missionnaires dans le monde francophone, ou alors aider des ministères qui implantent des puits en Afrique, je ne sais pas. Mais le message que je pense que Dieu voulait communiquer à cette assemblée, c'est « Levez les yeux ». Et ce que vous avez cultivé à l'intérieur est tellement précieux, ça, il faut le garder. Mais je crois qu'il vous appelle à ça. Il vous appelle à ouvrir. Et je crois de tout mon cœur que ce week-end, c'était une brèche. Et ne le faites pas parce que c'est moi qui l'ai dit. Laissez votre pasteur décanter le week-end. Laissez votre pasteur prendre le temps de réfléchir à ce week-end. Et laissez-le donner la direction pour l'Église. Et après, engouffrez-vous dans cette direction qu'il va donner. Mais moi, il n'y a aucune raison pour que vous ne voyiez pas la gloire de Dieu. Non seulement c'est une nouvelle phase pour l'Église donnée, et je le crois dans tout mon cœur. Parce que si on reprend l'Église d'Antioche, ils avaient des phases dans leur Église. La première phase, c'était des gagneurs d'âmes. La deuxième phase, c'était un centre d'enseignement. Et la troisième phase, c'est acte 13. C'est devenu une base missionnaire. Et on voit des phases, et vous arrivez à 40 ans d'existence. Il y a certainement eu des phases. Sous le pastorat d'un tel, c'était peut-être une église qui était plus forte dans cette direction. Sous le pastorat du prochain, il y avait peut-être cette nouvelle dynamique qui a été donnée. Et chaque fois, peut-être qu'il y a eu un nouveau pasteur, il y a un nouveau souffle qui est là. Mais je crois que de la même manière que dans l'église d'Antioche, en acte 13, pour revenir à ce modèle, qui je pense est le modèle du Nouveau Testament, vous allez devenir une base missionnaire, déjà pour de l'évangélisation locale, mais aussi une base missionnaire pour envoyer des fonds, pour soutenir des missionnaires. Et si vous appliquez le modèle de Jésus, selon l'ADN qui est propre à votre église, vous savez, il y a ce verset qui dit « crois seulement ». Et tu verras la gloire de Dieu. Et en tant que ministère itinérant, vu que je ne suis pas à Nice, je suis de passage ici, c'est ma prière pour vous. Que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Parce que non seulement c'est une nouvelle phase pour Onnay, et je pense que vous en êtes conscient. Qui pense qu'il y a une nouvelle phase qui arrive dans l'église d'Onnay? Ok, quand même quelques convaincus. Mais d'après ce que j'ai partagé aujourd'hui, qui pense que l'Église du Seigneur Jésus-Christ entre dans une phase aussi qui est glorieuse? Qui pense qu'on arrive? Et vous savez, j'aimerais dire à tous ceux qui ne sont pas forcément appelés dans un des ministères dont le réveil de guérison des années 50 était beaucoup basé sur les ministères dont. C'est-à-dire que Dieu utilisait les gens qui étaient dans le ministère pour exercer ce réveil de guérison. Mais je crois que dans l'Église glorieuse, ça ne sera plus l'époque. Ça, c'est un avis personnel, ça va? Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Mais je pense que l'Église glorieuse, ce n'est plus seulement les dons du ministère en action. C'est les dons du ministère qui équipent le corps de Christ. Et c'est vous, mes amis, qui imposez les mains. C'est vous, mes amis, qui gagnez les gens pour le Seigneur. Et ça a toujours été le plan de Dieu. Les dons du ministère existent pour équiper les saints. Pour que vous puissiez faire des choses extraordinaires. Mais peut-être tu te dis, mais c'est super ce que tu me racontes, mais moi, mon réservoir, il est sec. Je suis le temple de Dieu, mais le niveau de gloire, il est là. Et tu aimerais dire comme David, j'aimerais bien que ma coupe déborde, mais elle n'est même pas à moitié pleine. Si c'est votre cas, je ne vais pas prier longtemps pour vous. Mais vu qu'il n'y a pas eu de réunion avec imposition des mains, pour les 15 minutes qui restent, si vous êtes à sec et que vous avez besoin de passer à la station essence, venez faire le plein de la gloire de Dieu. Moi, je ne peux pas donner la gloire. Je peux juste être un canal. Et je vais juste imposer mes mains sur vous et déclarer que vous soyez remplis. Remplis de lui jusqu'à ce que vos coupes débordent à nouveau. Parce que si l'église n'est pas remplie, et si l'église... Ah, écoutez-moi ceci. Si la coupe de l'église n'est pas remplie, et si la coupe de l'église ne déborde pas, le monde ne sera pas touché. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'église, elle est à sec. Mais ça change. Ça remplit. Mais si vraiment on veut que l'église de Jésus-Christ ait un impact dans la société et dans le monde qui nous entoure,